Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 14e de la saison, comme chaque samedi soir, vous le savez. Le meilleur de l'expertise et du décryptage foot pour tous les publics, avec un remerciement appuyé à vous tous qui nous écoutez, en plaçant 7h30 de débat en tête des talks foot dans son créneau et sur tous les critères. 385 000 auditeurs, vous en faites partie, passent chaque samedi par On fait le match. Encore merci et bravo surtout aux talentueux chroniqueurs de l'émission. Au sommaire ce soir, semaine européenne à venir, alerte rouge pour le PSG, pour Rennes et Marseille. Faut-il craindre le pire? Après 19h, un peu de cosmétique pour masquer le psychodrame du foot féminin. Mais Corinne Diacre survivra-t-elle au putsch des révoltés du Bounty de l'Olympique lyonnais? Que se passe-t-il à Lille, troisième du championnat, avec un football, sinon le football le plus attractif de la Ligue 1? En tête de son groupe également en Ligue Europe. Mais pourquoi cette drôle de bouillabaisse en coulisses? Foot et médias, l'avenir de la Ligue 1 passera-t-il par la création d'un Spotify ou d'un Deezer à la française? C'est en tout cas la proposition formulée par Jean-Michel Aulas. Enfin, les tirs au but, tout le reste de l'actualité avant 20h, 20h RTL Foot. Sans match ce soir, mais jusqu'à 22h avec plein d'infos et plein d'autres débats. Avec moi, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
Karim Nedjari, directeur éditorial sport à Webedia. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Gilles Verdez, le procureur dont refait le match. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Émission 100% interactive, filmée, vous le savez, sur RTL.fr ou via la toute nouvelle application de RTL. Et puis vos messages également sur Twitter RTL Foot avec Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Actuellement, Brest-Saint-Etienne, le score 4 buts à 1 pour les Brestois, 76e minute de jeu dans un instant. Philippe Audouin au stade Le Blé. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Gilles Verdez et Karim Nedjari, mais aussi Philippe Audouin au stade Le Blé où Brest mène par 4 buts à 1 face à l'AS Saint-Etienne. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian. Plus que 12 minutes à jouer. Ce score de 4-1 était acquis à la 38e minute. Les Stéphanois qui ont complètement pris l'eau sur le plan défensif avec 4 buts marqués par Honora, Duverne, Cardona et Mounier. Alors qu'à la demi-heure de jeu, Saint-Etienne était revenu à 2-1, mais pour une courte minute sur un but de Camara, les Stéphanois qui, rappelons-le, restent sur 6 défaites d'affilée. Ça va très mal pour les joueurs de Claude Puel qui était 15e avant le match de cet après-midi et qui donc s'achemine vers une nouvelle défaite 4-1, plus que 12 minutes à jouer.
Antenne ouverte, bien évidemment, Philippe, dès qu'il se passe quelque chose en Ligue 2 cet après-midi. Caen est allé gagner au Havre, le derby normand, sur le score de 2 buts à 1. On a fait quelques débats. On refait le match, messieurs, sur Claude Puel, la nouvelle marque de fabrique de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Pour l'instant, pas de résultat.
Non, mais c'est surtout qu'on est proche d'un point de non-retour. Là, c'est le naufrage est complet. Il a de moins en moins d'appui au sein du club. Il est fâché avec beaucoup de monde. On comprend pas sa stratégie. Là, il relance bout de bouse. On sait pas trop sportivement où est l'intérêt, si ce n'est de lui faire quelques matchs pour tenter de le vendre, parce qu'il fait partie des joueurs qui sont normalement sur la liste des départs. Moi, ce que je vois encore, c'est que on a fini par s'habituer au fait que Ruffier ne soit plus le gardien et qu'on ait ce pauvre Jesse Moulin. J'ai rien contre lui, mais quand on voit encore le match qu'il produit aujourd'hui, je ne sais pas si on peut quantifier, c'est impossible, mais le nombre de points perdus par la Saint-Etienne, ou en tout cas pas gagnés comme c'était le cas avant parce que Ruffier était là, je crois que Saint-Etienne va dans le mur et je pense que ça ne va pas pouvoir durer jusqu'en fin de saison.
La faute à Claude Puel, Gilles Verdez ?
Non, alors moi je suis un défenseur de Claude Puel.
Il en reste un, moi.
Sans lui, exactement, sans lui, je m'accrocherais, sans lui, Saint-Etienne descendait, mais plus que ça, disparaissait. Puel, c'était le moyen de faire perdurer la structure du club économique, financière, sportive. Alors, il peut y avoir un incident sur une saison, mais il y avait une structure clanique. Il y avait des joueurs comme Ruffier qui faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus d'âme au-delà de l'ambiance. Il n'y avait plus rien.
Oui, mais il n'y a plus rien non plus. Là.
Bah, il n'y a plus rien, mais...
Selon Philippe, il n'y a plus d'âme et là, il n'y a plus de résultats.
Oui, mais il y a une reconstruction et parfois une reconstruction passe par quelques moments difficiles.
Moi, je trouve qu'il a remplacé un système clinique par un autre système clinique.
Karim Nedjeri.
Celui de Claude Puel. C'est-à-dire que partout où il va, il fait la même méthode. Il veut s'imposer, il veut mettre ses hommes et tout. Et là, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout balayer. On ne peut pas balayer non plus un passé. Et on ne peut pas, évidemment, retirer Ruffier d'un moment donné et virer aussi tous les cadres et faire confiance qu'à des jeunes. Les jeunes, dans une situation comme ça, ils coulent.
Oui, mais... Moi, je crois qu'il a commis une erreur avec Ruffier, ça, d'accord. C'était excessif, même dans la manière, et humiliant. Mais après, il y a beaucoup d'entraîneurs dont on dit beaucoup de bien, qui, lorsqu'ils quittent les clubs, laissent un champ de ruines, et les années qui suivent sont catastrophiques. Lui, c'est souvent l'inverse. Notamment lors de ses dernières expériences, par exemple à Leicester en Angleterre. Ça se passe mal au début, sauf qu'à l'arrivée, il reconstruit les clubs, et il fait des choses qui sont pas si mal.
Donc,
je pense qu'il a commis des erreurs. Je pense que le gros danger pour cette saison, c'est bien sûr de descendre, parce que là, ce serait une faute énorme. Et c'est là où je pense qu'il aurait dû être un peu plus patient avec Ruffier. Mais si il arrive à éviter la catastrophe cette saison, je pense qu'on peut, on peut repartir sur quelque chose de sain à Saint-Étienne. Et j'ai envie de parler de certains matchs de haut niveau qui ont été produits par cette équipe. Quand ils sont allés chercher Neyou au milieu de terrain, je pense que c'est pour 300 ou 400 000 euros, je crois. Je pense que c'est un garçon qui peut en valoir 15, 20 dans quelques temps. Moi, je pense que tout n'est pas aussi noir et aussi sombre. Je pense qu'il faut un peu de nuance dans le tableau.
Bon, puis il y a un truc qui va m'empêcher de dormir, c'est la faute à Claude Puel, c'est la faute de Claude Puel, évidemment.
Ça arrive de faire des fautes à l'oral.
En début d'émission, c'est toujours un peu
gênant. À nous, non, mais à vous, de temps en temps, c'est pas grave.
Et si on parlait du Paris Saint-Germain, Sébastien Tarrago, je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oh, ça devient lassant, on connaît le scénario par cœur, ça fait 25 ans que c'est toujours la même histoire.
On va parler également de Rennes, et puis un peu de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est alerte rouge sur le football français.
Le meilleur entraîneur de France à Rennes, finalement, il est peut-être pas si incroyable
que ça. Non, mais écoutez, on sait que vous avez une dent contre Julien Stéphan, sur le stade. Julien Stéphan, et dès qu'on met une pièce sur le stade rennais, c'est Julien Stéphan qui, effectivement...
Pas du tout.
Je pense qu'il
a beaucoup de qualités, mais bon. Pas autant qu'on lui en donne.
Oui, Thomas Tuchel avait de belles qualités quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est un moins que rien, maintenant?
Pas du tout. Pas du tout. Mais il a perdu le fil, et je pense qu'il est tombé dans le mal qui a frappé de nombreux de ses prédécesseurs, à savoir une forme un petit peu de renoncement et de paranoïa. Mmh. Donc il s'enferme dans une communication qui lui coûte cher, à mon avis, parce que c'est pas grave, fondamentalement, d'être fâché avec un journaliste. On s'en fiche.
Oui,
mais il parle au public, et puis surtout, ça a une répercussion à l'intérieur.
Alors ça, c'est plus gênant, effectivement.
Et ça, c'est un souci. Je pense que, malheureusement, il a abandonné le pouvoir, et il a perdu le fil.
Est-ce qu'il a déjà eu le pouvoir avec les stars du Paris Saint-Germain, Gilles Verdez?
Non, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait pris. Que Tourelle ait eu sans doute de belles qualités, que Tuchel à un moment était une promesse, mais ça n'a jamais été une réalité.
Attendez, on l'a pris parce qu'il n'avait pas d'influence, donc c'est un faire-valoir pour les joueurs du Paris Saint-Germain.
C'est un entraîneur de série B, Tuchel. C'est pas un des grands entraîneurs mondiaux. Bah, excusez-moi, Guardiola, il a 6 Tuchel dans chaque chaussure.
Mais de série B.
C'est un entraîneur moyen,
Tuchel. On a vu ça contre Lyon à plusieurs reprises.
Non, mais Tuchel était, de mon point de vue, sous-dimensionné pour le PSG. Et on voit, c'est comme Unai Emery, on voit où ça mène. Il faut un très grand entraîneur. Comme ils n'arrivent pas à l'avoir, ils sont obligés de tenter des coups. Et là, ils ont tenté un coup jeunesse. Tactique. Il pensait que Tuchel, par sa jeunesse, allait impulser quelque chose, une énergie, et que tactiquement il allait être très
mais
fort.
Mais pourquoi il n'arrive pas à l'avoir, Gilles, cet entraîneur-là?
Parce que personne ne veut venir mais avec le Qatar.
Et pourquoi?
Eh
bien, bien sûr, parce que ce club est inentraînable. Moi, j'ai été très sévère avec Unai Emery, je ne le regrette pas trop quand même, mais un peu sévère quand même, eh ben, je constate que ce club est inentraînable.
Mais attendez, il est inentraînable, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a quelle star qui est inentraînable? Il
n'y
en a qu'une. Allez, on va dire, c'est Neymar.
Qui décide? À un moment, on s'est dit, tiens, Leonardo arrive, il va mettre de l'ordre dans la maison. Ok, ben non, finalement, Leonardo, son pouvoir, il s'étiole aussi. Parce que c'est pas lui qui a... Un matin, au Qatar, il y a un prince qui se lève et il dit, j'en ai marre, c'est fini.
Non, c'est un émir.
Un émir, si vous voulez. Il a changé de dimension au cours des dernières années.
De l'évolution géopolitique du pays.
Absolument, vous avez raison, merci de me reprendre. Mais c'est ça la réalité. Donc tu ne peux pas créer comme ça. Ça n'existe pas une entreprise qui crée quelque chose de positif.
Mais c'est pas une entreprise, c'est un pays. Donc le PSG sert en fait à une politique économique, mais aussi à une influence géopolitique. Donc il est plus important d'avoir, par ses réseaux sociaux, d'avoir un média, j'emploie le mot média comme Neymar, qui peut toucher partout dans le monde que plus avoir, d'avoir un bon entraîneur.
Alors là, stop.
Mais oui, mais c'est la vérité, tout ça. La vérité,
les joueurs marketés, le club marketé, les supporters, à un moment donné, ne vont plus pouvoir le supporter.
Les supporters, on est tous d'accord avec vous,
Christian, mais c'est d'avoir Neymar.
Non, on vous donne les faits. On vous donne les faits. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est Neymar. C'est pas Tourelle. Tourelle, aujourd'hui, Neymar fait ce qu'il veut.
Et Mbappé.
Et Mbappé, encore plus important.
Vous pensez que les supporters sont fiers de voir le PSG tel qu'il a joué hier en championnat?
D'accord, c'est fiers d'aller en finale.
Déjà, pour commencer, personne ne l'a vu jouer parce que personne n'a la chaîne sur laquelle on pouvait voir le match.
J'aurais dû dire entendre les commentaires de Michael Lefebvre.
Voilà. Et c'est pas anodin, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'idées arrêtées sur les clubs, sur la façon dont ils jouent depuis le début de championnat. Et en fait, on s'aperçoit que les gens ne voient pas les matchs. Ce qui est normal, puisque on a fait des débats suffisamment longs là-dessus. C'est impossible aujourd'hui, à part.
Depuis trois mois. Enfin, le PSG a connu aussi de sacrées mésaventures avant l'arrivée de Téléfoot.
Je pense qu'on surdimensionne totalement le poids, le scénario, le résultat de la rencontre d'hier, qui était anodine et qui n'avait aucun intérêt sur le plan mathématique, qui n'avait qu'un seul intérêt, c'était de préparer la rencontre la plus importante de ce début de saison, qui est le match de mardi contre Leipzig. Preuve en est les déclarations de Thomas Tuchel avant la rencontre. Pour la première fois, je les ai toutes faites, toutes écoutées, ces conférences de presse depuis qu'il est là, c'est la première fois, l'unique et seule fois, où il a admis que le match d'après était bien plus important que le match du lendemain.
Ça, on avait besoin qu'il nous le dise pour qu'on le comprenne?
Non, mais par contre, le fait qu'il l'admette devant les micros et les caméras, ça veut dire que c'est d'autant plus fort comme message à l'intérieur du vestiaire. Ça veut dire qu'en gros, vous faites du mieux que vous pouvez, mais surtout vous ne vous blessez pas.
Philippe, les défaites amènent rarement les victoires.
Vous êtes en préparation sur un match. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, le scénario a été parfaitement favorable sur la première période, et donc ils ont lâché l'affaire. Il a dit je fais sortir Mbappé parce qu'il a suffisamment de temps de jeu, il a montré qu'il avait retrouvé de l'explosivité, je veux pas le cramer, je fais sortir Di Maria. Neymar, il a absolument pas le rythme, mais on va quand même le faire rentrer pour qu'il ait un petit peu de temps de jeu et qu'il puisse apporter aussi face à Leipzig. Et résultat, ils ont lâché le match parce qu'en plus Monaco s'est réveillé et a fait le match qu'il fallait. Mais il ne faut tirer aucune conclusion sportive du match d'hier.
Qu'il y ait une dramatisation excessive de la défaite d'hier, je peux l'entendre. Mais vous-même, vous êtes, excusez-moi, en contradiction, parce que vous dites, le match le plus important, c'est celui qui survient contre Leipzig. C'est incroyable que le PSG en soit là. C'est-à-dire que le PSG joue son avenir européen à la quatrième journée de Ligue des Champions, parce qu'ils ont été nuls avec deux défaites avant.
Donc ça,
je veux bien qu'on prenne un peu le match de Monaco. Aussi. Mais le match là qui arrive, il est décisif. Et moi, ce que je reproche à Tuchel, vous disiez là, je fais sortir Mbappé, je machine. Tuchel, il a perdu son autorité parce qu'il a voulu faire copain avec les joueurs. Et ça, il faut le dire aussi, à force de faire copain avec les joueurs, à force d'aller boire des coups avec les joueurs, à force de faire ami avec les stars, il a perdu son autorité. Bah, il n'a plus d'autorité sur son groupe.
Surtout d'aller en finale de Ligue des Champions, quand même.
Non, mais Philippe, moi j'ai...
Enfin, tu ne peux pas, Philippe, dire que c'est une saison atypique et nous dire qu'ils sont allés en finale de Ligue des Champions.
Attention,
c'est aussi d'une saison atypique.
Attention, c'est pas une saison atypique. 5 défaites en 14 matchs, ce n'était jamais arrivé au PSG depuis 2004.
3 défaites en championnat et 5 défaites toutes compétitions confondues.
Ce n'était jamais arrivé. Mais moi, j'aimerais bien, et les supporters, Philippe, voudraient être d'accord avec vous en disant ce match-là, ils ne l'ont pas joué. Non, ils ont voulu jouer. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que c'est très faible. Je n'ai jamais vu une défense du PSG sur ces 10 dernières années, des années du Qatar. Regardez les hier,
mais
le niveau,
mais ça les empêche. Là, il sera là contre
mais ça les empêche hier les défenseurs, les attaquants de redescendre au milieu de terrain, de ne plus courir.
Non, mais c'est ça qui est terrible. Il y a une équipe vraiment qui est disloquée. Et Tuchel a sa part de responsabilité. Mais les joueurs également. Il est en train de prendre le pli. Il voit Neymar, Mbappé pas défendre et être vraiment feignant à ce niveau-là.
Julien Kine fait la même chose. Tu ne gagnes pas ou quasiment jamais avec des attaquants qui ne font rien. Défensivement, ça n'existe pas.
Mais là, il y en avait 4 hier, Sébastien, qui ne couraient pas hier. 4.
Aujourd'hui, par exemple, au FC Barcelone, tout FC Barcelone qu'il soit, tout Lionel Messi qu'il soit, tu ne gagnes plus la Ligue des Champions parce que Messi marche. J'adore Messi, mais il marche tout le temps. Donc tu ne peux pas gagner comme ça. Quand vous voyez Liverpool, bah devant, ça court. C'est comme ça, c'est la réalité. Et même au Real Madrid, quelque part, ça court.
Le Bayern, ça court. Moi, ce qui m'a fait mal hier, regardant Tuchel hier en conférence de presse, c'est qu'il ne peut même plus critiquer ses joueurs. Parce que s'il critique ses joueurs, il perd les dernières chances de rester en place. Sinon, il sort tout de suite. Il n'est que dans la langue de bois.
Non, mais c'est pour ça aussi que j'en reviens au point initial, c'est-à-dire que ces joueurs au talent incontesté, ça va sans dire, c'est mieux en le disant ou en le rappelant. Mais tellement marketé, c'est que ce club maintenant pense à vendre davantage peut-être de maillots et se dire à Tourelle, maintenant débrouille-toi.
Ça, c'est deux choses qui peuvent être menées de front, c'est pas un problème. Encore une fois, jusqu'à la saison passée, personne se plaint du fait qu'ils ont fait des revenus marketing exceptionnels, qui sont même cités en exemple par les plus grands clubs sur
mais
la
Philippe,
façon dont ils ont généré
des joueurs
revenus.
Qui s'arrachent ça, davantage sur le terrain et qui ont une carte de visite.
Le traditionnel, le maillot. Non, la réalité du moment, c'est que tous les joueurs sont exténués au bord de la blessure, qu'ils n'ont pas eu de préparation et qu'ils sont tous border, et qu'en gros, ils choisissent leur match. Et donc hier, ils ont choisi leur match. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a une tendance globale, notamment chez les attaquants du Paris Saint-Germain. Et on cite souvent Neymar et Mbappé. Enfin, Di Maria, il fait à peu près aussi, fait semblant de courir.
Sarabia de même.
Donc c'est un vrai problème. Oui. On est d'accord. mais qui est décuplé par la situation qu'on vit en ce moment et l'état physique des joueurs. Vous verrez que mardi face à Leipzig, les attaquants seront pas des modèles de défense comme à Liverpool, mais ils défendront beaucoup plus et ce sera pas le même match.
Gilles Verdez, avant de parler de Rennes et de l'Olympique de Marseille, et les messages également sur les réseaux sociaux.
Si on met la responsabilité de ce qui se passe en ce moment sur des joueurs marketés comme Neymar et Mbappé, je vous trouve un peu, excusez-moi, démagos, parce que sans les deux talents que sont notamment Mbappé, avec ce qu'il a fait à Monaco, et Neymar, il n'y a plus rien. Il n'y a que des brels au milieu. Danilo qui a joué au milieu, c'est une catastrophe. Danilo au milieu
son
hier.
Son vrai poste est derrière.
Il est nul.
Vous avez dit des joueurs marketés. Oui, ce sont des joueurs aussi marketés. Mais aussi, une fois que tu as ces joueurs-là sur le terrain, au-delà du marketing, parlons du terrain, tu ne les vois pas faire le boulot qu'ils devraient faire normalement.
Mais parce que les milieux sont nuls, les latéraux sont catastrophiques.
C'est pas un match de tennis.
Le PSG sans Mbappé, Neymar, c'est rien, je les adore,
j'aime les voir jouer, mais qui joue au tennis?
Parce qu'à un moment, Mbappé, aujourd'hui, ils ont tellement
conscience d'être dans un rapport de force favorable, notamment par rapport à leur fin de contrat dans 2 ans, que en fait tout tourne autour d'eux. Ce n'est plus du football, ce n'est plus un jeu collectif avec ces gens-là. C'est la réalité.
En tout cas, il y a un grand perdant dans tout ça, c'est Leonardo. Puisque quand il est revenu, Leonardo nous avait dit qu'il allait remettre de l'autorité, qu'il allait remettre tout le monde au garde à vous, qu'il avait l'autorité qui venait de Doha. Et bien, il n'a pas plus d'autorité que Tourelle.
Ils posent tous en ce moment avec la PlayStation 5. Ben voilà, pour eux, le football, c'est la PlayStation, c'est tout.
Les messages sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot avec Baptiste Durieux, émission 100% interactive, Baptiste.
Beaucoup de messages sur Thomas Tourelle, le compte Twitter footeuse qui nous écrit en disant selon la logique de certains, si on vire Tourelle, Danilo deviendra un Mota, Diallo un Silva, Gueye un Matuidi, Kurzawa un Maxwell et Paris jouera en équipe avec une mentalité de gagnant à chaque match. Oui, tactiquement, dans son attitude et dans sa communication, Tourelle a fait des erreurs, mais le problème de Paris est tellement plus profond. Ce club est construit sur des fondations bancales. Message d'Alberto aussi qui a une petite proposition. Pourquoi pas survendre Sarabia à un club qatari pour financer le départ de Tourelle, valable également pour d'autres joueurs de l'effectif. Et puis un message de Fayad qui nous dit Tourelle donne l'impression d'être usé, d'avoir perdu sa lucidité, sa créativité dans ses plans de jeu et sa lecture des matchs. Néanmoins, je regrette que certains paramètres liés à la planification sportive, comme l'appauvrissement de son effectif, soient souvent omis.
Effectivement, des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés, qui étaient des vrais leaders, Thiago Silva, Thiago Motta, eux, c'était des leaders. Et qui gueule dans le vestiaire pour remobiliser les troupes? Qui, Philippe Sanfourche?
Il y a un problème de personnalité dans le vestiaire, ça c'est une évidence. Et du coup, ce que disait Sébastien, Neymar et Mbappé focalisent toutes les attentions. Et il n'y a personne pour créer un lien et un lien entre ces joueurs et ces stars.
Brest-Marseille, un vrai match de football cet après-midi, Philippe Audouin.
Oui, il fallait surtout voir la première mi-temps, Christian. La deuxième aura été anecdotique. 4-1 pour Brest, score final et score acquis dès la 38e minute. Brest qui a mené 2-0 grâce à Honora et Duverne. Camara a alors réduit l'écart pour Saint-Etienne, mais pour une toute petite minute, puisque Cardona a redonné de l'air à Brest. 3-1 à la 33e, 4-1 à la 38e grâce à Mounier. 7e défaite d'affilée pour Saint-Etienne qui recevra Lille dans 8 jours. Attention, il y a alerte rouge à Saint-Etienne.
Alerte rouge également à l'AS Saint-Etienne. Et réaction et décryptage à 20h dans RTL Foot, bien évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, c'est On fait le match. Alerte rouge également pour les clubs européens. Le PSG, on vient d'en parler. Rennes et Marseille, on en parle après la publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match depuis 18h30 et jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles Verdez et Karim Nedjari. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé des joueurs, de sa gouvernance, de Leonardo. Au fait, le match c'est mardi contre Leipzig et ce sera à suivre sur l'antenne de RTL. Une nouvelle défaite du Paris Saint-Germain et c'est Thomas Tuchel qui signe son, entre guillemets, son arrêt de mort, Philippe Sanfourche.
Au-delà de la défaite, c'est surtout, faudra regarder aussi l'autre rencontre du groupe, mais il est certain que si le PSG ne sort pas de sa poule de qualification, ce qui serait une première, je pense qu'il y aura des flagrations, oui, dès cet hiver.
Et pas forcément que sur le banc. Je suis pas sûr que Leonardo survive à cela.
Oui, c'est tout à fait
pour
prendre.
Être clair, je pense que ça peut faire un lot et hop.
En cours de saison, les deux?
Non.
À Noël, oui.
Je pense pas. Je pense que Leonardo aura la possibilité, comme il ne voulait jamais bosser avec Tuchel qu'on lui a imposé, je pense qu'il aura une dernière carte en choisissant un entraîneur, comme Allegri par exemple.
C'est pas lui qui choisira l'entraîneur.
Si, non, mais
le Qatar ne choisit jamais l'entraîneur.
Non, il aura une dernière carte.
Le Qatar choisit toujours l'entraîneur.
Non, il aura une dernière carte.
Mais ça, c'est très important parce qu'ils sont en train de renégocier les contrats de Mbappé et de Neymar. Et le futur entraîneur sera très important dans la décision et de Neymar et de Mbappé de rester à Paris, si tant est que Mbappé, sa décision ne soit pas déjà prise.
Bon, le Stade Rennais, Julien Stéphan, votre idole, Sébastien Tarrago, non, déception.
En fait, je peux préciser quand même.
Oui, allez-y.
Je pense que Julien Stéphan est un excellent technicien. Excellent. Je pense simplement, et c'est pour ça que je me permets parfois un tout petit peu d'ironie, que la clique médiatique va un peu vite en besogne lorsqu'il s'agit d'en faire le nouveau José Mourinho.
La clique médiatique, c'est votre journal, en l'occurrence.
Hein. Non, je ne crois pas.
Bah si.
Mais écoutez, je suis ravi de constater que pour vous, il n'y a que l'équipe qui compte, et c'est très bien.
J'ai pas dit ça.
Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de médias autour du football. Je croyais que c'était assez clair pour vous. Mais en l'occurrence...
D'ailleurs, on peut se mettre dans l'eau. Hein, je veux dire, on a été nous aussi modes, avec Stade Rennais, assez dithyrambique.
Il y a des modes.
Et West France, le Télégramme et plein d'autres journaux.
Dans le football, il y a des modes. Et je trouve que la mode qu'il y avait ces derniers mois autour de Julien Stéphan était excessive et un peu idiote. Ce n'est que mon avis. Après, je pense que c'est un bon technicien qui traverse une crise comme tous les techniciens traversent.
Sébastien, je suis souvent d'accord avec vous, mais pour une fois qu'on avait un entraîneur qui prenait un jeu un peu offensif, qui prenait un peu de l'enthousiasme. Moi, je prenais plaisir à regarder parce que quand je vois Rennes, je vois une équipe cohérente qui joue au football et qui prend le risque. Le problème, c'est que le malheureux, comme des Furlans, comme on a vu, des Gourcuff auparavant, il prône un jeu offensif dans un championnat qui est fermé. Dès qu'à chaque fois qu'il essaie de faire comme ça, il se prend des contres.
Ça l'a pas empêché l'année dernière de se qualifier pour la Ligue des Champions.
Oui, oui, j'en étais ravi. Mais pas. Là, c'est très dur de prôner du jeu offensif et de le pratiquer journée après journée.
La réalité, c'est juste que Rennes, aujourd'hui, ils sont aussi trompés, pour l'instant en tout cas, sur le recrutement avec, par exemple, Martin Terrier, que l'entraîneur en est donc aussi responsable. Moi, ce que je constate juste, c'est que c'est juste pour essayer de nuancer. C'est simplement que quand Olivier Létang a fait le recrutement du Stade Rennais, il me semble que Julien Stéphan a bien fait son travail d'entraîneur. Olivier Létang a plein de défauts et il voulait faire peut-être plus.
Il voulait faire aussi entraîneur, son problème aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Alors que s'est-il passé après?
Mais en revanche, quand l'entraîneur il veut aussi faire le directeur sportif, peut-être que les choses se compliquent.
C'est le même problème.
Donc à un moment, si chacun restait à sa place et si c'était pas le concours de celui qui fait le pipi le plus loin, je pense que les clubs iraient mieux.
Gilles Verdez?
Non, là je trouve que c'est un Stéphan bashing qui
pas
me,
du tout,
qui
j'ai beaucoup de respect, tu n'as pas écouté. Je comprends, je vois tes larmes dans tes yeux et j'en suis triste.
Il y a une crise de croissance à Rennes.
Oui. Et il est confronté. Non, mais elle dure.
Ah, elle est réelle.
Il y a un maintenant, problème, ça commence à le devenir.
Permettez-moi de vous dire que je suis le Stade Rennais depuis très longtemps pour des attaches qui me sont très personnelles. Et on a souvent encensé le Stade Rennais en début de saison. Et au premier quart de la saison, très, très, très régulièrement, ça a été une déception.
Ça fait déjà une saison et demie.
Quel que soit l'entraîneur.
Ça
pose un autre problème environnemental également.
Alors, pour moi, il y a un problème avec les joueurs. Vous avez Kamavinga, que j'adore, qui n'a absolument pas digéré ses sélections en équipe de France, qui n'est plus du tout concentré par le jeu et qui est ailleurs, donc ça c'est un vrai problème. Mbanyang, ça a été très mal géré, donc est-ce qu'il pourra revenir un jour à son niveau? Je n'en suis pas sûr à Rennes.
Par qui ça a été mal géré?
À partir du moment où un joueur veut partir, où il y a tous les jours des articles pour dire que Marseille, il avait la tête ailleurs et il n'a pas souhaité rester, au final il reste. Il y a même un épisode rancomolesque sur la fin qui fait que le joueur est complètement sorti du truc. Ça, c'est des accidents qui arrivent...
dans tous les clubs chaque saison. Je vois pas en quoi Rennes est responsable de cet épisode Mbaye Niang.
Vous ne pouvez pas perdre et le joueur et l'argent. C'est Michel Denisot qui disait ça quand il dirigeait le PSG. C'est-à-dire que là, ils ont perdu l'argent, mais ils sont en train de perdre le joueur aussi. Ça fait beaucoup. Donc ils vont le regretter. Ils auraient dû. Et en plus, c'est quelqu'un, franchement, qui a une. Alors, c'est un peu un solitaire parfois, mais c'est quelqu'un qui, dont le mental, le moral déteint énormément sur l'ensemble du vestiaire. Quand vous avez un Mbaye Niang qui est triste, c'est une calamité dans un vestiaire.
Qui gère le vestiaire, là, Gilles
ben, qui gère
il
le vestiaire,
c'est l'entraîneur, non?
Non, mais Mbaye Niang, c'est pas l'entraîneur.
Mais le mercato,
c'est un vrai problème. Ça a été mal géré.
Julien Stéphane, il a eu la peau de. Ça y est, j'oublie son nom du coup.
Julien Létang,
tout le monde le sait. Très bien, c'était une guéguerre, pas de souci. Mais derrière, il faut l'assumer. Et derrière, il fait le recrutement de manière assez importante. Et ben, le constat, c'est que pour l'instant, c'est un échec. Mais vous pouvez pas, Gilles. Renier ça, puisque ça, ce sont des faits. Vous me dites que c'est pas argumenté, ça s'appelle un argument.
Le Stade Rennais, on en parle également sur les réseaux sociaux. Et derrière 19h, on parlera de l'Olympique de Marseille. Hein, que les supporters marseillais soient rassurés. Baptiste Durieux.
Message optimiste de Clément, supporter Rennais, qui nous dit la seule lueur d'espoir pour le SFRC, c'est que décembre arrive à grands pas, le mois préféré de Julien Stéphan. 11 matchs, 10 victoires. Et encore la défaite, c'est dans une compétition qui n'existe plus. Donc Clément qui est optimiste pour ce mois de décembre qui se profile.
Et vous continuez de nous rejoindre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le site RTL.fr, émission filmée, sur la toute nouvelle application de RTL ou encore sur le compte @RTLFoot, le compte Twitter évidemment, pour nous faire partager vos points de vue sur le parcours européen.
Et après, la saison, elle n'est pas cuite hein, pour Rennes. Parce que moi, j'espère pour Rennes qu'ils vont être quatrième de la Ligue des Champions et qu'ils vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat. Et alors, je pense qu'ils ont l'effectif pour finir très très bien cette saison.
Hein. Donc, semaine européenne à venir, alerte rouge pour le PSG, on en a parlé. Pour Rennes, on vient d'en parler. Pour Marseille, on en parlera derrière les informations de 19h. On fait le match et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Il est 19h. 19h, les informations Hortense Crépin.
Jonathan Daval, condamné à 25 ans de réclusion criminelle, est reconnu coupable du meurtre de son épouse Alexia. Décision ce soir de la cour d'assises de Haute-Saône, après moins de 3 heures de délibération. L'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité. La défense annonce ne pas faire appel de la décision. Maître Randall Schwerdorfer est l'un des 3 avocats de Jonathan Daval.
Ils ont su se départir de cette pression et ça a été compliqué pour rendre une décision qui est une décision juste. C'est une décision judiciaire que je ne commenterai pas. On a pu travailler convenablement, avoir une cour d'assises à l'écoute dans un contexte particulier et on ne peut être que satisfait d'avoir pu travailler normalement dans cette cour d'assises comme dans n'importe quel procès d'assises. La décision a été rendue, nous acceptons cette décision et nous clôturons maintenant sur cette décision le volet médiatique.
Maître Randall Schwerdorfer, l'un des avocats de Jonathan Daval au micro RTL de Samuel Goldschmidt. À la sortie du tribunal, la famille d'Alexia parle, elle, d'une très bonne décision à la hauteur de leur souffrance qui va permettre de tourner une page. Floutage de gueule, des vidéos, pas des lacrymos, même pas drones, c'est ce qu'on a pu lire sur des pancartes cet après-midi à Toulouse, Marseille ou Montpellier. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans une vingtaine de villes de France pour protester contre le projet de loi Sécurité Globale. À Paris, des incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à la fin du rassemblement. Avec des poubelles incendiées, une petite dizaine de manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué en faisant usage à plusieurs reprises de canons à eau. La réouverture des bars et des restaurants, ce n'est pas pour tout de suite, mais Jean Castex confirme aujourd'hui l'horizon d'une réouverture des commerces autour du 1er décembre avec un protocole sanitaire très strict. La décision finale reviendra à Emmanuel Macron. Il va s'exprimer mardi à 20h pour faire le point sur l'épidémie. En sport, la judoka Madeleine Malanga, sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois chez les moins de 78 kilos. Même palmarès pour Roman Dico, 21 ans, 7 fois chez les plus de 78 kilos. Côté tennis, l'Autrichien Dominic Thiem se qualifie pour la finale des Masters à Londres. Il vient à bout de Novak Djokovic, 7-5, 6-7, 7-6 et affrontera demain Daniil Medvedev ou Raphaël Nadal. La météo demain avec un ciel nuageux sur les régions du nord de la Seine et de légères pluies entre le Cotentin et le Pas-de-Calais. Sur les trois quarts sud du pays du soleil, une fois les brouillards matinaux dissipés. Les températures demain matin, moins 2 à Valence, 0 à Toulouse, 6 à Rennes et Paris. L'après-midi, de 8 degrés à Dijon et Strasbourg, à 17 degrés à Biarritz. Les courses étaient à Auteuil cet après-midi. Pour gagner, il fallait miser sur le 11, le 4, l'As, le 5 et le 8. Demain après-midi, direction Vincennes, Dominique Cordier vous conseille le 9, le 5, le 6, l'As, le 2, le 14, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 6. 19h03 sur RTL et tout de suite, le retour dans Refait le match.
Prochaines informations, 20h.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h. On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé de Rennes, alerte rouge en vue de la Coupe d'Europe qui se profile à l'horizon. Avec moi en studio, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Karim Nedjari, directeur éditorial sport à Webedia, et Gilles Verdez, le procureur. On va parler également de l'Olympique de Marseille, sauf que l'Olympique de Marseille ne joue plus. Il ne joue plus au football. Ça fait maintenant 17 jours, enfin, quand ça fera 17 jours, mercredi prochain, jour de match contre Porto, que Marseille n'aura pas joué. Donc il y a eu la séquence internationale.
Et c'est une catastrophe.
Marseille aurait dû jouer contre Nice ce soir. Marseille aurait pu voir un match reporté à cause du coronavirus niçois remplacé par Lens. Lens a refusé. Et le président Hérault, le président délégué de l'Olympique de Marseille, estime que l'éthique n'a pas été respectée. C'est ce qu'il disait de mémoire. C'était sur le site officiel de l'Olympique de Marseille hier soir. C'est une catastrophe, Karim Nedjari.
C'est une catastrophe sur trois points. La première, c'est qu'ils ne jouent pas de manière régulière. Donc ils vont arriver sans jouer un match important contre Porto en Ligue des Champions. C'est une catastrophe parce que plus vous cumulez des matchs de retard, plus vous cumulez des points de retard. Et après, c'est très compliqué quand vous êtes dans le ventre mou de vous extirper. Mmh. Et troisième point, c'est un point de vue économique. C'est important parce que à chaque fois, par exemple, ce soir, il devait être programmé sur Canal+. Donc vous avez des coefficients de clés de répartition à la fin. Et moins vous êtes diffusé, moins vous avez d'argent à la fin des
matchs. Mais ils sont diffusés par Canal quand même.
Non, parce que les matchs vont. Si c'est pas la grosse affiche du dimanche, en fait, c'est pas les mêmes clés de répartition que dans la semaine. Et donc, à la fin, il y a un manque à gagner assez important. Quand
alors,
même.
Ça, c'est l'aspect économique, mais est-ce que l'éthique sportive est mise à mal, comme le dit le président Hérault?
Mais c'est très compliqué parce qu'à un moment donné, ils vont devoir jouer plein de matchs tous les deux ou trois journées.
Mais ne t'inquiète pas, leur calendrier.
Leur calendrier va s'aller très vite.
T'inquiète pas, Karim. Je pense que l'année prochaine, ça ira mieux. Il n'y a pas de souci. Ils font tous les efforts nécessaires en Coupe d'Europe pour avoir un calendrier soft au mois en 2021.
Même en Ligue Europe?
Ouais, bah écoutez.
Bon, bah oui.
Je pense que
il y a Payet qui fait des efforts, il a fait un petit régime là, donc il est dans de bonnes
formes. Mais non, il était au bon poids visiblement, donc il n'a pas pu faire de régime. D'un côté, il fait un régime, et d'un autre côté, on nous explique qu'il avait le même poids que l'année dernière. C'est peut-être que l'année dernière, il aurait dû faire un régime.
Gilles Verdez.
Pour revenir sur la situation globale de Marseille, qui est une calamité en Ligue des Champions, puisqu'ils égalisent, puis ils vont battre les records de défaites, enfin, c'est absurde. Pour moi, il y a trois raisons. Vous parliez du bon président Hérault. Une nullité,
du président héros,
nullité du président absolue. L'incompétence personnifiée à son poste. Un gag depuis le début. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sait rien faire, il ne comprend rien.
Des partenariats
ne
dirige pas.
Il s'entoure, il a fait venir le patron de Microsoft pour trouver de l'argent, il marque une autre personne pour s'occuper du sportif.
Comme il est nul, il lui faut plein de gens autour de lui.
Excusez-moi,
je vous dis ce que je pense.
Un peu de respect.
Je le respecte totalement.
Bah oui.
Un entraîneur totalement démotivé. Qui voulait partir, il est resté, il ne sait pas ce qu'il fait là.
Mais il n'a pas trouvé d'autre club.
Et les joueurs qui sont, pire que mauvais, voulez-vous que Marseille ne soit pas la risée non seulement de la France, mais de l'Europe entière? Et moi, j'ai peine pour les supporters marseillais qui voient ce spectacle désolant.
Ils ne le voient pas, ils ne viennent plus.
Jusqu'où? Ouais, ben là, oui. Jusqu'où va s'effondrer l'OM? Jusqu'où?
Messieurs, est-ce qu'on peut entendre autre chose que de parler de nullité de la part du président Hérault?
Je veux dire, si un débat doit
se tenir à peu près correctement, il y a quand même aussi quelques qualificatifs qu'on peut ne pas employer.
Avouez quand même, Christian, que l'épisode auquel vous faites référence, c'est-à-dire que le non-remplacement du match et le fait que Lens est refusé.
C'est ça qui m'intéresse.
Oui, ça pouvait effectivement générer une réaction de regret. Au final, c'est un communiqué de 12 lignes, incompréhensible. C'est tout le résumé de ce que... limite, il nous fait un PowerPoint pour nous expliquer que...
caricaturer.
Mais c'est même Philippe Lévy. Il va prendre un head of communication dans peu de temps et puis c'est tout.
Et puis, il est quand même mal placé pour donner des leçons, parce que je pense que le Covid... du côté de l'effectif de l'Olympique de Marseille, il y en a eu un petit peu quand même. Donc, quand ça les. Je veux dire, il y a un moment, Lens, ils n'allaient pas accepter de jouer ce match. alors qu'eux-mêmes sont dans une situation délicate par rapport au Covid, qu'ils ont été frappés de manière phénoménale, ils n'allaient pas jouer leur rencontre face à l'Olympique de Marseille diminuer. Enfin, faut pas exagérer.
Moi, ce qui me laisse un peu circonspect, je voudrais que vous alimentiez la discussion sur ce sujet, c'est ces quatre coronavirus niçois qui sont tombés comme à Gravelotte et avec un match reporté, pas officiellement, mais reporté officieusement, plus d'une semaine avant l'échéance.
Oui, mais...
Non, mais oui, mais non, mais oui, non,
mais... Je sais sur quel terrain vous voulez aller, mais à Lens, il y a eu la même chose. Il y a eu la même chose, vous savez très bien. À Marseille, il y a eu beaucoup de cas il y a quelques semaines. Voilà, à Paris, n'en parlons pas. Donc, voilà. Est-ce que tous les joueurs de football sont sérieux?
Je veux vous entraîner sur le terrain de l'hygiène de vie des footballeurs.
Est-ce que tous les joueurs de football sont sérieux? Non. Ils ont... Est-ce que les jeunes... entre 20 et 30 ans, sont tous sérieux? Non. Et ben voilà, ce sont des jeunes et qui parfois manquent de sérieux. Oui, c'est vrai. Voilà, oui.
Vous avez l'accusation facile vis-à-vis des Roms, mais vous avez vraiment la défense facile vis-à-vis des joueurs. Ils ont beau être jeunes, ce sont des professionnels.
Mais je vous dis qu'ils ne sont pas sérieux. Je ne défends pas.
Mais ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes.
Bah oui,
que vous suggériez que des foyers ou clusters au sein de certains clubs soient dus à des moments de proximité hors
non approprié
d'investir.
Non approprié.
Oui. Bah oui, mais alors quand je disais ça tout à l'heure sur le fait que Tourelle allait boire des coups avec ses joueurs, que c'était peut-être pas le bon système.
Non, c'était Philippe Sanfourche. Hein.
Ah bon? Ah oui. Non, moi j'ai dit ça.
Oui, c'est Philippe Sanfourche.
Vous avez l'air de pas entériner. Pour moi, ça fait partie aussi. C'est la préparation invisible. Qui, alors on n'est pas les seuls, regardez l'équipe d'Angleterre où là c'est à chaque rassemblement. Donc c'est vrai que il y a eu parfois des négligences au sein des effectifs, comme il y en a eu au sein de certains cercles festifs.
Et comme il y en a chez certains journalistes qui boivent des coups également et qui organisent des fêtes privées.
Exactement. Mais après, d'un professionnel, moi j'ai toujours pensé qu'il devait être exemplaire. Et là, ils ne le sont pas toujours.
Mais c'est le règlement. Ce pauvre règlement, on aurait dû s'aligner sur le règlement européen en disant il y a 13 joueurs disponibles, on joue.
Mais oui.
Et voilà. Et après, tout le monde est responsable. Les joueurs sont responsables, le club est responsable, et il y a 13 joueurs, on joue. Point à la ligne.
Mais oui. Rien de plus que cela, parce qu'après, on va pas non plus faire preuve d'hypocrisie sur la vie des joueurs. C'est des jeunes, effectivement, qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont une dépense d'énergie, une dépense, il y a un besoin de décompression. Ils ne peuvent pas s'enfermer chez eux. Après, moi, je veux bien
Vous avez une défense facile.
Mais ça, c'est de la morale facile.
Ce n'est pas de la morale facile. Il y a des faits.
Il y a les faits, il y a la vie. Il y a la vraie vie.
Oui.
Et la vraie vie, quand on a 25 ans et qu'on est professionnel et qu'on est sportif de haut niveau, on a des besoins de décompensation.
Et ce que vous voyez.
Une fois de temps en temps, ils soient entre eux, parce que je rappelle quand même qu'ils sont. Ce qui est valable à l'entraînement peut l'être aussi en soirée. C'est-à-dire qu'ils sont quand même censés être testés tous les deux jours, ils peuvent être ensemble. Après, il peut y avoir des éléments extérieurs.
J'entends ça, Philippe. Mais on ne peut pas dénoncer le comportement des jeunes qui boivent des coups en terrasse et qui ne restent pas les distances, et puis se dire que ces joueurs-là qui gagnent quand même beaucoup d'argent, qui ont des responsabilités.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Enfermez-les tous les soirs chez eux à partir de 17h et vous verrez qu'ils seront tellement déprimés qu'ils auront des résultats encore plus mauvais que ceux qu'ils ont aujourd'hui.
Certaines responsabilités vis-à-vis de leur club.
Ne parle pas d'exemple devant Philippe Sanfourche, parce que là on est là jusqu'à minuit.
Non, mais surtout je vous rappelle quand même la situation économique du football français actuellement, quoi. Ça serait bien que tout le monde fasse des efforts le temps de 6 mois, de se dire
Mais tu as raison, bien sûr.
Et on passe le ras tous ensemble.
Alors, je ne faisais allusion à rien tout à l'heure, sauf qu'effectivement, on se demande comment il y a eu un foyer de cas positifs à Nice, d'un coup d'un seul, sans que les joueurs, a priori, à un moment donné, aient pu se voir ensemble.
Ce qu'on peut reprocher à M. Hérault, c'est de ne pas appeler un chat un chat et de faire un communiqué avec plein de sous-entendus où personne ne comprend rien.
Oui, mais en même temps, si tu as bien compris, Karim, tu disais que l'équité n'était pas respectée.
Voilà. C'est ce qu'il a voulu dire. Voilà, maintenant, il faut qu'il appelle un chat un chat. Mais aujourd'hui, dans la situation de coronavirus, on fait tous très attention à tout ce qu'on peut dire, puisqu'il y a la santé et puis il y a des vies en jeu. Quoi.
Après, Christian, pour nuancer, le footballeur n'est pas un individu par essence confiné. Il est mobile. Il va à l'entraînement. Il y a une promiscuité dans les vestiaires. Il y a les retours de sélection. Donc, il y a des voyages. Donc, il y a des faisceaux de perturbations potentielles extérieures qui peuvent alimenter un foyer.
Enfin, les internationaux niçois, il va falloir les répertorier.
Je parle globalement. Il y a des fêtes, il y a des soirées, il y a des conduites inappropriées, mais il y a aussi la nature intrinsèque du footballeur qui fait qu'il se déplace. Donc potentiellement, il peut être davantage en contact que certains autres.
Peut-être aussi qu'il faudrait parler, là on parle du Covid et très logiquement, mais il faut peut-être parler aussi de ce club de Marseille qui était en sur-régime l'an dernier. et que là, l'an dernier, ça basculait du bon côté, cette année, ça bascule du mauvais côté. Rien ne marche en ce moment. On a l'impression que Villas-Boas a perdu les clés du camion.
Bon, alerte rouge pour le PSG, pour Rennes et Marseille, c'était une bonne question, messieurs.
Très bonne.
On arrive toujours au même constat, c'est que le Paris Saint-Germain est dans une phase difficile, mais a quand même intrinsèquement la qualité nécessaire pour pouvoir rebondir dès mardi.
Rennes
pour
a été
les
dans
deux
une phase
autres
délicate.
Clubs, je suis désolé, c'est un problème structurel. Enfin, la structure de l'effectif ne leur permet pas de pouvoir objectiver autre chose que, dans le meilleur des cas, une troisième place dans cette Ligue des Champions.
Un mot sur Lille quand même. Oui. Un mot sur Lille, car Lille est en tête de son groupe en Ligue Europe. Lille est troisième du championnat. Lille produit l'un des meilleurs jeux actuellement, en tout cas des jeux les plus aboutis.
Galtier a remplacé Stéphane dans la hype des entraîneurs
du
français.
Championnat de France.
Évidemment. Avant, c'était chiant de regarder Galtier.
Et alors, si vous permettez, je termine.
C'est devenu formidable.
Si vous me permettez, Philippe, je termine mon introduction.
Oui, avec grand plaisir.
Et donc, il l'a trouvé un peu longue, c'est pour ça qu'il vous a coupé.
Et il se passe des choses pas possibles en coulisses avec Marc Ingla, le DG qui veut partir. Mais qui il ne veut pas démissionner, donc il veut toucher des indemnes, on l'a bien compris, parce que c'est un employé du club, même s'il est directeur général. Et on a Luis Campos, le conseiller sportif de Gérard Lopez, qui lui ne veut pas partir, c'est qu'il ne veut pas revenir. C'est-à-dire que depuis le mois d'août,
il n'appartient pas à l'île.
Et là, Christophe Galtier, dans l'équipe, il y a 2-3 jours, à qui je m'adresse ? Comment on peut faire progresser le club ? Comment on peut préparer la saison prochaine ? Moi, le mercato en mois de janvier, ne comptez pas sur moi. Donc il n'y a plus que 2 têtes pensantes au sein du club, Gérard Lopez, le président,
qui n'est pas souvent là,
et Christophe Galtier, qui fait ce qu'il peut.
On peut peut-être expliquer aux gens...
C'est ubuesque.
En fait, on va faire très simple. Lille joue au Monopoly chaque année. Et ils ont intérêt de faire des doubles 6 à chaque fois, pour faire le tour et de passer le plus souvent par la case de départ et toucher les 20 000 euros. Parce qu'il faut qu'ils trouvent 100 millions d'euros chaque année. Donc, s'ils ne trouvent pas ces 100 millions d'euros, ça va aller très très mal. Puisqu'en fait, il faut qu'ils remboursent un emprunt à un fonds de pension.
Donc c'est le job de Lopez. Hein.
Oui, donc ça veut dire qu'il y a une
pression. Le job de Lopez, c'est trouver l'argent. Donc, le job de Campos, c'est de trouver
Campos, il faut qu'il trouve à chaque fois pour 100 millions d'euros. Et Lopez, lui, il faut qu'il rembourse. Et le pauvre Galtier, lui, là-dessus, il faut qu'il ait des résultats.
Enfin, le pauvre Galtier, il a un effectif qui est très bon.
Au niveau du foot, mais c'est une course à l'infini vers une chose qui est impossible à maintenir. Et ça se finira mal.
Disons qu'il y a un accident, une fuite en avant potentielle.
Qui finira mal.
Mais sur la saison, tout. Oui, Gilles Verdès qui lève le doigt. Oui, Gilles, allez-y. Oui.
Mais il est bien éduqué.
Oui, mais formidable.
Toujours. Lille, c'est une illusion. Et je disais tout à l'heure, j'utilisais des propos que vous n'avez pas beaucoup aimés sur le président Hérault. Par courtoisie, je ne parlerai pas du président lillois Lopez, parce que mes propos dépasseraient largement ce que vous pourriez supporter.
Si on peut éviter un procès.
Mais absolument, nous l'éviterons.
Plus poliment, Lille, c'est une illusion. Et moi, pour Monsieur Lopez, pourquoi, selon vous, c'est comment?
Non, le mot, on veut pas l'entendre.
Non, mais je veux dire, la seule préoccupation de Lille, c'est de faire du trading purement financier. Et moi, j'ai toujours dit que je plaignais beaucoup les supporters lillois qui retrouveront dans 5 ans le club exsangue.
Il n'y a pas que Lille.
Il y a Lille et Monaco, et les deux seront exsangues dans 5 ans.
Si ça tient 5 ans, c'est remarquable.
Ça sera remarquable. Alors, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est l'interview de M. Galtier. Pourquoi elle me gêne? Parce qu'il savait très bien où il allait. À fois arrêté. Tout le monde sait comment fonctionne M. Lopez, tout le monde sait comment fonctionne M. Campos, tout le monde sait comment fonctionne M. Ingla. Donc, dire après, mais qu'est-ce qui se passe à Lille? C'est trop facile. Il savait très bien que c'est un grand n'importe quoi, où on achète des joueurs pour les revendre, et vous disiez, je trouve un peu complaisant, ça joue bien à Lille.
Qui voulait avoir sa peau, en gros. Il a fait cette interview pour avoir la peau d'Ingla.
C'est pas ça qui me choque, messieurs.
C'est choquant de dire...
C'est un trading, c'est le foot business, faut se mettre à la mode. Et ça marche pour l'instant. Ce qui me choque, c'est que c'est une équipe qui est 3e du championnat et qui marche en Ligue Europe, et là, tout est en train de s'effondrer.
Mais rien ne marche, il n'y a pas de fondation. C'est un château de sable.
Tout va s'effondrer.
Je ne sais pas.
Est-ce que vous trouvez normal que le conseiller sportif ne mette pas les pieds à Luchin depuis le mois d'août? Est-ce que vous trouvez normal que le directeur général Ingla ne donne pas de nouvelles?
La prise de risque est très importante. Cela étant dit, pour l'instant, l'effectif est très bien équilibré. Le travail effectué par Campos au cours des derniers mois et des dernières années est remarquable sur le plan sportif.
Excellent.
Mais ça, c'est je vois Gilles tomber de sa chaise, mais ça c'est la réalité. Après, est-ce que ça peut tenir? Je ne sais pas. C'est une prise de risque très importante.
Pourquoi ils sont venus, les fonds de pension? Ils sont venus parce que Mediapro a prévu 1 milliard chaque année. comme ils n'arrivent pas, les fonds de pension vont tous se barrer très rapidement. Donc là, c'est un miracle déjà que c'est tenu deux ans, enfin, et d'avoir réussi à vendre PP à 80 millions et d'avoir vendu au Siemens à 80 millions. Mais ils ne vendront pas tous les ans pour 100 millions. Donc c'est impossible à tenir.
Et puis au-delà de ça, il ne faut pas imaginer que du jour au lendemain, des garçons comme Campos ou Ingla sont devenus des amoureux de l'histoire du LOSC et qu'ils sont là pour un projet à long terme. Campos, il a des sociétés avec des intérêts qui sont divergents aussi, enfin qui intègrent le LOSC, mais pas que. Mm-hmm. Il a ses bases arrières, il a Moucron, il a un business global dans
Moucron,
lequel...
Moucron, c'est Lille aussi.
Oui, non mais d'accord, mais je veux dire... aujourd'hui, le modèle,
Campos,
le
il a une société
Campos,
dans laquelle il travaille.
Financier, la façon dont
c'est
il
Scoutly, Scoutly. Voilà. Là, c'est là, hein, donc ça veut dire Scout, etc. Et il travaille également avec d'autres clubs, plein d'autres clubs.
Non, mais il n'est pas
sous
contrat
qu'il est
sous contrat avec lui, attention.
Oui,
c'est ça.
Bien
il est sous contrat avec M. Lopez.
Alors à ce moment-là, il faut s'en prendre aussi à Gérard Lopez, qui lui a départ à Boavista.
Vous ne voulez pas que Gilles dise ce qu'il pense.
Évidemment, mais
vous ne voulez pas que Gilles Lopez dise la vérité.
Non, mais c'est une myriade de sociétés dont la transparence ne m'a jamais paru évidente. Je dis ça d'une manière avec un doux euphémisme et à mon avis ce n'est absolument pas conforme à ce que devrait être l'éthique du football français, c'est-à-dire que moi ça ne me satisfait pas et ça va être les supporters lillois qui vont être les gogos de cette affaire. Mais comme quand vous vous évertuez, excusez-moi Christian, à dire Lille ça joue bien etc, mais c'est pas le problème puisque ça va bien jouer trois mois avant de vendre les mercenaires qui sont venus endosser le maillot lillois pour être vendus ailleurs, c'est triste.
Et cette interview de Galtier prépare l'avenir, c'est-à-dire voilà mon CV pour Lyon, pour Marseille, je suis disponible parce que ça ne va pas tenir très longtemps à Lille.
Les messages sur les réseaux sociaux suivis par Baptiste Durieux.
Message de Sylvain sur le LOSC qui nous dit: on dit souvent que le sportif va bien si le club va bien. La contradiction est totale au LOSC. Meilleure équipe française mais Capharnaüm total dans la direction du club. Et puis message de Benoît qui a une analyse assez intéressante. Il nous dit: Lille fonctionne car Lille n'espérait pas garder certains joueurs comme Ikoné par exemple. Du coup le LOSC se retrouve avec un effectif gonflé, complet, des postes doublés, indépendamment de leur volonté. Ne voyons pas le LOSC trop beau, nous dit Benoît.
Merci Baptiste, et vous continuez. Lille pas trop beau, c'est cela Baptiste Durieux?
Exactement, ne voyons pas Lille trop beau.
Oui, enfin, personne n'a vu Lille trop beau, simplement il y a des faits, ce sont les résultats, troisième et premier du groupe, et reste à savoir si effectivement ça peut durer. C'est toute la question.
Rien ne nous empêche de dire que M. Campos a des méthodes, comme on l'expliquait tout à l'heure, mais qui connaît en tout cas le football, qui sait construire un effectif et qui permet de faire une belle équipe. Et l'équipe, elle est cohérente et elle offre du beau football en ce moment.
Ah, pour être président, vous n'êtes pas obligé de bien connaître le football, cher Sébastien. Mais Campos, le président de Monaco, Petrov, le dit d'ailleurs.
Oui, mais Campos n'est pas président, hein, il fait l'effectif de Lille. Vaut mieux qu'il connaisse un peu le football.
Alors, Campos,
il
connaît parfaitement. Je pensais qu'on parlait de Gérard Lopez.
Non, il connaissait aussi bien la Formule 1 que le football.
Pardonnez-moi.
Il a d'excellents réseaux, Campos.
Que Karim parlait de Gérard Lopez.
Il a laissé d'ailleurs une trace.
Mais oui.
Il est très aimé dans le milieu de la Formule 1.
Gérard Lopez.
Oui.
Ouais. Bon, écoutez, on refera la Formule 1 un autre jour. Hein,
non, mais Philippe, vous voulez enfin parler d'un sujet qu'il connaît bien.
Intéressez-vous quand même à ce qu'il a fait en Formule 1. Vous aurez une idée de ce qu'il va laisser dans le football.
Bon, allez, ne dérapons pas. Corinne Diacre, survivra-t-elle au putsch des révoltés du Bounty de l'Olympique lyonnais? Alors, il y a eu une espèce un peu de cosmétique avec la conférence de presse, la mise au point de Corinne Diacre. Pour masquer le psychodrame du foot féminin. Stage la semaine prochaine. Match important à Guingamp chez Noël Le Graët vendredi contre l'Autriche. Et j'ai beaucoup aimé le titre de l'équipe, mais qui était également dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un peu la politique de l'autruche actuellement? Parce que chacun campe sur ses positions, mais avec des formules quand même très très dures, hein, employées lors de sa conférence de presse par Corinne Diacre.
Petite info, le sommeur est blessé. Elle sera absente du match.
C'est officiel?
Oui.
Ça fait un problème au moins pour Corinne Diacre.
Alors, messieurs, est-ce que c'est un psychodrame et est-ce que Corinne Diacre survivra à ce psychodrame?
Ou est-ce que le mal est beaucoup plus profond? Gilles, c'est le seul à défendre Corinne Diacre en France.
Mais
il faut lui reconnaître ce...
Il pourrait compter sur un fidèle allié.
Ah ben voilà! Il faut surtout pas
toucher
à la fantastique sélectionneuse Corinne Diacre
qui a tout gagné.
Et c'est
un faux procès.
Voilà, regardez.
Ouais. Qui a tout gagné. Voilà.
Ça peut avoir une incidence.
Elle a fait qu'une compétition, quart de finale. Ouais. Laissez au moins le challenge, quart de finale de D'accord. la Coupe du Monde. Il y a eu que cette compétition officielle.
Ce qui compte, c'est
je veux dire,
c'est
plutôt
possible.
Que de détruire un travail qui sera jugé à l'aune effectivement de ses résultats.
Jeux Olympiques,
quart de finale.
On l'empêche de parler sur le
maillot. Gilles Verdez,
fait bien mieux que moi. Mais franchement, on a quelqu'un qui aime le maillot national, qui est impliqué.
et qui tombe face à des putschistes lyonnaises, bah, c'est vous qui avez employé le terme putsch. Je ne fais que le reprendre.
Les révoltés du Bounty.
Et il est très bon. Des putschistes lyonnaises qui ont l'habitude de ne pas avoir d'entraîneur chez elles parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais qui là tombent sur une sélectionneuse parfois dure, parfois avec un langage. Alors moi, ça, je déteste. On lui reproche de ne pas bien communiquer. Mais on reprochait ça à Aimé Jacquet. Vous voyez où il nous a menés ? J'ai l'impression de revivre les mêmes querelles. Pour moi, Corinne Diacre, c'est Aimé Jacquet.
À l'intérieur, on trouve pas.
Et les joueuses, et que l'on se range derrière elles, ou alors celles qui sont pas contentes, elles partent. Et la France gagnera.
Sébastien Tarraco, elle ne trouvait pas les joueuses, mais fallait le faire, fallait crever l'abcès juste derrière la Coupe du Monde s'il y avait quelque chose à faire.
Je suis d'accord avec vous. Mais pendant la Coupe du Monde 2019 féminine en France, je vous ai dit à ce micro, vous n'étiez pas content, que Corinne Diacre avait tous les défauts de Didier Deschamps et aucune de ses qualités. C'était il y a un an et demi. Donc là, je ne vous le dis pas là maintenant, alors qu'il y a le feu. Tout le monde sait, quiconque a travaillé dans un tout petit peu, hein, parce que c'est facile de savoir, sur le football féminin et sur l'équipe de France, sait qu'il y a le feu. Depuis que Corinne Diacre est là, que ça se passe extrêmement mal. C'est une réalité avec de nombreuses joueuses.
C'est pas
que
tout à fait exact.
Qui était une occasion historique pour le football féminin.
Ce n'est pas tout à fait exact.
Mais attendez, laissez-moi finir. Vous me contredirez après, sinon je peux pas.
Oui,
finir.
Mais c'est une contre-vérité. Donc je.
Ce n'est pas une contre-vérité. Moi, j'ai travaillé un tout petit peu sur le dossier, sur comment ça se passait il y a un an et demi pendant la Coupe du Monde. Je vous l'ai dit à ce micro, je ne le dis pas aujourd'hui. Donc la preuve en est que visiblement, il y avait un petit problème quand même. Donc elle a gâché ce moment historique et notamment à travers sa communication parce que c'était très important pour impulser quelque chose pour le football féminin. Après, là où je vous rejoins, c'est que les Lyonnaises, elles nous fatiguent. Parce qu'à un moment, elles devraient aussi avoir la lucidité de constater qu'en club, elles gagnent tout, mais elles gagnent tout aussi parce qu'il y a des joueuses étrangères qui sont exceptionnelles et qui les amènent sur le toit de l'Europe.
Sébastien.
Et qu'effectivement, on ne peut pas non plus, comme à Lyon, ça c'est vrai ce que dit Gilles, à Lyon, concrètement, Jean-Michel Aulas a été transparent là-dessus, ce sont les joueuses qui décident si le coach reste ou pas.
Elles en ont essoré. Hein.
Mais, oui,
elles en ont essoré.
C'est une stratégie de M. Jean-Michel Aulas qui est totalement assumée parce qu'il gagne. Mais c'est sûr qu'en équipe de France, c'est très compliqué de gérer ces joueuses. Et cela ne date pas pour le coup de Corinne Diacre, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec des sélectionneurs précédents, et tous, c'était très compliqué.
Non, mais attendez,
voire un calvaire. Parce qu'elles sont très compliquées
alors,
à gérer.
Sélectionneurs précédents, Bini, les filles le prenaient pour un charlot. Ok, d'accord. Quand Échouefny a laissé sa place à Corinne Diacre, je veux dire, toutes les joueuses ont salué l'arrivée de Corinne Diacre en justement mettant en avant de nouvelles méthodes d'entraînement et qui leur permettaient de progresser. Elles l'ont dit, reprenez les déclarations. Toutes l'ont dit.
Si vous vous contentez des déclarations pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, on ne va pas s'en sortir. Parce que les joueuses, elles ne vont pas dire, à part quand on arrive à un point de non-retour, elles ne vont pas dire c'est une catastrophe dès le départ. Mais franchement, au moins, reconnaissez cela. À la Coupe du Monde féminine, il y a un an et demi, on vous l'a dit à ce micro, Christian Olivier.
Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un procès en sorcellerie qui est fait à une femme. Souvenez-vous, il y a 15 ans,
Moi, je travaille, je donne des informations, et vous insultez. Vous insultez.
Non, il n'y a pas d'insulte.
Si, c'est une insulte de dire...
C'est un débat,
Sébastien. Parce que, clairement, Gilles dit que c'est, en gros, qu'on est sexiste. C'est une honte de dire une chose pareille.
Comme il y a 15 ans, les journalistes femmes.
Vous méritez mieux que ça, Gilles.
Mais laissez-moi. Quand vous êtes gêné, vous éructez quand vous êtes gêné.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de fond, vous utilisez des insultes.
Il y a 15 ans, les journalistes femmes ne pouvaient pas travailler par misogynie. Et aujourd'hui, c'est une sélectionneuse femme et elle gêne parce que c'est une femme. Et donc, on veut la virer. Elle gêne plein de journalistes qui la fracassent.
Mais n'importe quoi. C'est les joueuses qui la fracassent. C'est pas les
journalistes. On va revenir sur un plan factuel.
Après la publicité. Très 19h et 29 minutes. Allez, on calme le jeu, on met le pied sur le ballon, on boit un verre d'eau, la publicité et on revient sur le foot féminin. Restez avec nous et on fait le match jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise et du décryptage, avec de la bonne humeur, du sourire et de la bienveillance.
On va changer de sujet alors.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Mais on va...
On peut revenir sur Président Héroux ou pas pour
non,
de
mais
la
non,
bienveillance
non, mais là, ah, non, je... non, mais...
je voulais rectifier une petite chose parce qu'on a dit qu'elle était forfait.
Je voulais vous présenter quand même Karine Nedjari, Gilles Verdès, Sébastien Tarrago et Philippe Sanfourche.
Non, parce qu'on s'est un peu précipité sur le forfait définitif de Le Sommer. C'est très inquiétant, mais elle prendra sa décision définitivement demain.
Exactement.
Et juste pour dire une chose, et la passion de ce débat le montre, il y a un responsable quand même, c'est Noël Le Graët. Dans tout ça, il veut avoir raison souvent contre tout le monde. Il a souvent raison, hein, sur Deschamps, il a aidé. Mais dans cette affaire-là, trop de choses ont été dites. Trop de choses. Et donc, il aurait dû à un moment siffler la fin de la récré, réunir tout le monde et parler. Ça traîne depuis super longtemps.
Oui.
Voilà. Amandine Henry, elle a simplement, en tant que capitaine, elle a pris courageusement la parole. Ça, il ne faut pas lui reposer. Mais elle a quand même attendu. Mais elle le dit. Au moment où elle est plus sélectionnée.
Oui,
elle aurait pu le
courage.
Dire à l'époque, et elle aurait pu crever l'abcès il y a au moins 2 ans. Et moi, je suis assez d'accord, et je renvoie tout le monde dos à dos. J'ai l'impression que les Lyonnaises font souvent ce qu'elles veulent, et là, elle est tombée sur
une
personnalité.
C'est pas une impression. C'est pour et ça que je disais tout à l'heure, pardonnez-moi, Karine.
Il y a un problème entre les Lyonnaises et les Parisiennes dans le club, et on l'a vu hier, les Parisiennes ont gagné d'ailleurs, mais Le Graët aurait dû régler ça en tant que bon manager.
Mais Karine,
et depuis
Karine
trop longtemps.
A raison. Vous voulez absolument qu'il y ait un responsable, un coupable, en l'occurrence les Lyonnaises.
Pas du tout.
Mais je pense que les responsabilités sont extrêmement partagées.
C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer.
Et effectivement, les sélectionneurs précédents ont beaucoup souffert avec ces joueuses.
Ce que je voulais te dire, Sébastien, tout à l'heure, quand je parlais de contre-vérité, c'est qu'effectivement, quand elle est venue elle a remplacé Chouefni, elle a été accueillie par toutes les joueuses, les Lyonnaises comprises. Si la Coupe du Monde s'est mal passée, effectivement, en interne et sur le plan sportif, puisque effectivement, en quart de finale, on peut considérer que c'était le minimum, effectivement. Il aurait fallu purger cette affaire derrière la Coupe du Monde. Seulement, les Lyonnaises sont revenues en club, ont pensé à leurs petits intérêts particuliers, et une à une, elles ont réglé leurs problèmes avec Corinne Diacre. Sarah Boisdi, qui décline la sélection.
Mais le problème, c'est qu'il y a,
oui,
eu,
non, mais
il y a eu un
débrief. Le problème, il est là, simplement. Seulement, on ne peut rien dire aux Lyonnaises, qui en ont essoré beaucoup d'entraîneurs également à Lyon. On peut le dire, ça aussi.
Je vous l'ai dit, donc je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais il se trouve que ce débrief a eu lieu à Clairefontaine lors du rassemblement qui a suivi la Coupe du Monde 2019. Il y a eu des conversations, on va dire, serrées à Clairefontaine lors du rassemblement qui a suivi. Et il se trouve, et là je crois que c'est là qu'il y a eu la faute de Noël Le Graët, il se trouve que ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que malgré les discussions, malgré la volonté de tout mettre sur la table, ça s'est extrêmement mal passé. Et donc les joueuses sont reparties avec leur rancœur, en tout cas pas mal de joueuses, disons, pas toutes, hein, c'est important aussi d'ailleurs à signaler, mais les joueuses sont reparties avec leur rancœur et la sélectionneuse est repartie avec la certitude que ces joueuses-là n'étaient pas dans le bon
et
état.
Et Sébastien, quand on parlait de sexisme, ça a mis un peu le feu tout à l'heure. Oui, à Clermont, elle en a été la victime.
Mais non.
Oui.
Mais à Clermont, elle est restée.
Oui, à Clermont, elle en a été la victime.
Ah oui. Pas du
C'était
tout.
C'était une caution pour les dirigeants de faire venir, de placer une entraîneur, etc.
Bien sûr.
Elle en a été la victime.
Mais alors, attendez, je connais bien Clermont, j'y suis né. Je vous garantis que Claude Michy, en l'occurrence, qui n'est plus le président de Clermont, mais qui à l'époque l'était, est le président de rêve pour tout entraîneur. C'est-à-dire qu'il a dû rester 20 ans au Clermont Foot, il n'a jamais licencié un entraîneur.
Mais je ne parle pas de Claude Michy, il n'y a pas que Claude Michy.
Écoutez, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui s'appelle Olivier Chavanon, qui était le directeur sportif du Clermont Foot, qui était la cheville ouvrière de ce club, qui faisait le recrutement. Elle est arrivée, ils ne se sont pas entendus, et sans doute qu'il a sa part de responsabilité, M. Chavanon, mais elle a eu sa tête. Parce que quand Claude Michy a choisi Corinne Diacre,
oui, mais ça l'a mise en difficulté par rapport à certains joueurs.
Bien sûr que non.
Ça l'a mise en difficulté par rapport à certains joueurs.
Puisqu'elle est restée tout le temps. Elle est restée tout le temps et qu'elle a eu la tête du directeur sportif historique de Clermont Foot.
C'est un fait.
Donc là, on ne peut pas dire pour le coup de contre-vérité.
C'est un fait pour Chavanon, mais ça l'a mise en difficulté par rapport à ça. Non, mais pas raté du tout.
Elle a eu la tête du directeur sportif et vous dites qu'elle a souffert.
Ça l'a mise ensuite en difficulté dans la gestion avec certains joueurs.
Mais comme tout entraîneur.
Mais écoutez la fin des propos des autres, Sébastien. Oui, elle a eu la tête de Chavanon, mais ça l'a mise en difficulté. Et elle a quitté Clermont plus vite peut-être que prévu.
Peut-être pas non plus parce qu'il y avait l'équipe de France. Elle est partie pour l'équipe de France.
Mais ça l'a mise en difficulté, je vous assure.
Ce qui l'a mise en difficulté, c'est la relation qu'elle a eue avec ses joueurs.
On est d'accord.
Ces joueurs en ont parlé parce que ils considèrent.
C'est ce que je vous dis, Sébastien.
Mais il n'y a pas de sexisme. Ces joueurs considèrent qu'elle s'est mal comportée. Certains de ces joueurs, encore une fois,
considèrent qu'elle
s'est mal comportée avec eux. Mais ces joueurs-là pourraient dire la même chose d'un entraîneur garçon. Ça arrive tout le temps. tout le temps. C'est vous qui enfermez Gourcuff dans son statut
je
de femme.
Je l'entends. Philippe Sanfourche.
Moi, je pense qu'il y a suffisamment de choses à lui reprocher pour ne pas partir sur ce terrain-là. Ce qui est certain, et je vais commencer par le positif, il y a effectivement un état de fait quand elle est arrivée et qu'elle a pris cette équipe en main. Elle est très vite arrivée à la conclusion, et ça a commencé avec Wendy Renard, et après ça a été sur d'autres joueuses, que, et notamment les Lyonnaises, avaient un niveau d'exigence et de performance qui n'était pas forcément le même en club et en sélection. C'est-à-dire qu'il y a les mots, il y a les grandes phrases, et puis après, il y a les actes. Et effectivement, elle n'a peut-être pas vu, par rapport au potentiel de ses joueuses, une capacité à pouvoir aller au-delà de ce qu'elles étaient habituées à faire. Et donc, elle a voulu augmenter l'exigence pour aller vers la performance. Donc ça, c'est tout à fait louable. Après, il y a les méthodes. Et là, on en vient, moi, l'épisode de Clermont, je le connais pas bien, mais enfin, on s'aperçoit quand même qu'elle est très souvent dans la culture du conflit, qu'elle est dans un management où il n'y a pas la place pour penser différemment, pour le dialogue, pour essayer d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Et au final, elle est en rupture avec tout le monde, parce qu'elle est en rupture avec ses joueuses. Et là, je m'inscris en faux sur l'histoire uniquement des Lyonnaises. Il y avait eu des problèmes avec Gaëtan Tinet, il y a eu des problèmes avec Amraoui, il y a eu des problèmes avec Katoto. Il y en a eu plein, des problèmes. C'est pas sa considérée.
Il y a eu des problèmes avec Katoto, elle ne l'a pas convoqué
ensuite,
pour la Coupe du Monde.
Elle est fâchée avec la moitié de la presse. Elle est fâchée avec la moitié du staff avec lequel elle travaille en équipe de France à la Fédération. Elle ne s'entend avec personne.
Non.
C'est soit vous êtes avec moi, soit vous dégagez.
Non.
Donc quand vous avez un management comme celui-là, forcément, il y a un moment, c'est difficile d'emmener tout un groupe vers la performance.
Allez, on termine avec Gilles Verbez.
C'est pas elle qui ne s'entend avec personne. C'est tout le monde qui ne veut pas
dès qu'elle est indifférente avec quelqu'un, elle veut l'écarter.
Excusez-moi,
que ce soit une joueuse, que ce soit un collaborateur, que ce soit un journaliste.
Joueuses
dès qu'elle est indifférente avec quelqu'un, il n'y a pas de dialogue, on écarte.
Elle est meurtrie parce qu'elle n'est pas considérée
comme
son prénom est Corinne.
On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Être sélectionneur de France, il faut fédérer les forces. Et la première des choses, c'est quand on a des bonnes joueuses, c'est les mettre à leur poste.
Mais toutes les joueuses ne sont pas contre elles, Karim. Au sein du groupe équipe de France, il y a des joueuses qui ne sont pas contre elles.
Non, mais moi, je vais simplement parler du terrain. Mais ne pas mettre le sommeur au bon poste, de dégrader Renard.
Mais elle a bien le droit de choisir. Bien sûr, vous allez dire non, ça. Elle a bien le droit de choisir une capitaine qui soit une autre que celle
mais
qui
Gilles,
est.
Mais Gilles, la meilleure des choses pour pouvoir faire, c'est de mettre les bons joueurs à leur bon poste et les mettre dans les meilleures
messieurs,
solutions.
Messieurs, il est un fait aussi, c'est qu'il y a certaines joueuses qui ont la trentaine quasiment atteinte et qu'elles voient passer les trophées internationaux et qu'elles ne les gagnent pas. Elles les gagnent simplement en club, elles les gagnent pas avec l'équipe de France. Donc c'est peut-être aussi une solution en changeant de sélectionneur pour essayer de gagner ce qui va arriver bientôt.
Mais non, on va gagner l'Euro. Sans changer de sélectionneuse.
Ah, ça, je ne sais pas.
Mais si.
Bon, 19h38, on fait le match, les réseaux sociaux, Baptiste Durieux, avec la Ligue 2 également. On a un peu oublié la Ligue 2 ce soir.
Exactement, sur Corinne Diacre, d'abord, message d'Audrey. Quand j'entends les descriptions de Diacre, je trouve qu'elle a les traits d'une petite dictatrice. Je ne comprends pas comment elle peut être maintenue en poste, grosse erreur de casting. Et puis, sélectionneur, c'est très différent d'un entraîneur. Diacre n'a ni le management, ni l'envergure, nous dit Audrey. Et puis, message de William, la sélection n'est pas le club, Lyon n'est pas l'équipe de France. J'entends Amandine Henry, j'entends Sarah Bouadi, mais excusez-moi, ça ressemble de plus en plus à des caprices d'enfants qu'on a privé de goûter, nous dit William. Et puis effectivement, la Ligue 2 et cet petit événement pour l'instant, c'est le Paris FC, le leader qui est mené sur sa pelouse 2-0 par Auxerre, 0-0 entre Chambly et Toulouse, 0-0 entre Valenciennes et Rodez, 1-0 pour Grenoble sur la pelouse de Pau, Dunkerque qui mène à Niort 2-0, 0-0 entre Amiens et Clermont et Sochaux pour l'instant qui mène 1-0 face à Châteauroux.
Et cet après-midi, quand est allé gagner au Havre 2-1. Une page de publicité derrière la publicité, une petite séquence tout de même sur sport, ou plutôt foot. Foot et médias avec une proposition de Jean-Michel Aulas. L'avenir de la Ligue 1 passerait-il par la création d'un Spotify ou un Deezer à la française? On va profiter de l'expérience et l'expertise de Karine Nedjari à ce sujet. Publicité dans l'immédiat.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h avec Karim Nedjari, Gilles Verdez, Sébastien Tarago, Philippe Sanfourche. 20h, 22h ce soir, pas de match, mais beaucoup de surprises, beaucoup d'invités, d'autres débats également avec toute l'équipe d'Éric Silvestro et de Xavier Domergue. Je pense notamment, mais pas seulement, Giovanni Castaldi, je pense également à Raymond Abou. Et vous serez accompagné jusqu'à 22h avant de retrouver Georges Lang. Foot et médias, l'avenir de la Ligue 1 passera-t-il par la création d'un Spotify ou d'un Deezer à la française? C'est une proposition émise mise il y a quelques jours par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Alors Spotify ou Deezer, c'est une application, une plateforme qui vous, pour 9,90€, vous permet d'écouter de la musique à volonté. On est bien d'accord avec cela, Karim Nedjari.
Alors,
si on met, il faut qu'on m'explique, si on met une plateforme qui s'appellerait Spotify Foot, par exemple, pour 25 euros consommation complète des 10 matchs de Ligue 1, ne parlons pas de la Ligue 2, on n'atteindrait pas les sommes du 1 milliard par an pour les clubs français.
Le calcul est assez simple, c'est-à-dire que si vous voulez équilibrer à 1 milliard, il faut 7 millions d'abonnés qui payent 25 euros.
7 millions d'abonnés pour 25 euros.
Voilà, c'est à peu près le modèle économique de Mediapro en ce moment.
Les 7 millions, jamais en France.
Voilà. Et après, non, mais ça peut intéresser M. Aulas, parce que si c'est du Spotify ou du Deezer, vous pouvez acheter au match. Si vous achetez au match, ça va être les gros qui vont être achetés. Personne n'ira acheter PFC et Auxerre, mais tout le monde ira acheter au match. Donc, ce n'est pas ça. Le problème de ça, c'est que si vous perdez des partenaires historiques comme vous avez perdu Canal+, Bein Sport, Orange, tout ça, en fait, il y a l'achat des matchs qui vous garantissent pendant 3 ou 4 ans des revenus équilibrés. Et ces revenus équilibrés vous permettent de créer des business plans et de pouvoir faire du recrutement. Mmh. Mais si vous avez un partenaire à côté, il y a aussi autre chose. C'est qu'à côté de tout ça, on vous fait des matchs. La meilleure promotion du football à la télé ces 10 dernières années, c'était le Canal Football Club, l'émission en clair.
Si
vous êtes sur du Spotify, il n'y aura plus d'émission à côté de tout ça.
Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment très modestement que la consommation a un peu changé, que les téléspectateurs, les jeunes, viennent picorer et qu'ils sont peut-être moins intéressés à la télévision par l'avant-match et l'après-match. C'est-à-dire, on achète un match, on arrive à 20h, coup d'envoi, boum, et on
enfin, quitte. En l'occurrence, l'émission dont parlait Karim, jusqu'à l'année dernière, quand il y avait l'affiche du dimanche soir, je crois que les audiences étaient excellentes.
Ça faisait 1,5 million. C'est quand même pas mal.
Gilbert Vez.
Il y a quand même un problème en filigrane derrière tout ce que vous posez comme postulat, c'est le piratage. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas veut instituer des méthodes qui permettent aux gens de choisir. C'est que pour le passionné de France aujourd'hui, qui veut regarder tous les matchs, c'est des sommes de plusieurs dizaines d'euros. Aucun ménage ne peut payer tout ça. En plus, techniquement, c'est très compliqué, donc personne n'est abonné à tout. Ce modèle-là nous mène à la ruine. Et vous parliez des jeunes, mais les jeunes ne payent pas. Les jeunes ne payent pas. Il y a un streaming gratuit, il y a du piratage massif de plus en plus. Il y a eu un trafic démantelé en Italie colossal, 5 millions de personnes.
Et en France, estimation 3 millions de personnes qui consommeraient du sport illégalement.
Alors il faut surtout ne pas le faire, c'est illégal, mais quand vous consommez, vous ne risquez rien. C'est celui qui copie le diffuseur qui risque jusqu'à 3 ans de prison, c'est jamais appliqué. Mais sinon, vous, quasiment, vous ne risquez rien. Et les jeunes pirates, et Jean-Michel Aulas a raison de dire, c'est trop cher, il y a du piratage, donc trouvons un modèle qui fasse que ce piratage cesse.
Je vais faire très court. S'il y a du Spotify ou simplement aussi n'importe quelle autre méthode de streaming, ça veut dire qu'il y a un signal. S'il y a un signal, ça veut dire qu'il y a du piratage. Dès que vous captez un match, il y aura du piratage.
Spotify est piratable.
Mais oui, parce que de toute façon, à partir du moment où vous allez mettre des caméras et que vous allez capter un match, il y a ce qu'on appelle un signal. Donc ce signal-là, c'est là où il est volé.
Donc il n'y a pas de solution.
Ça se développe aussi parce qu'on est dans un modèle économique qui est plus viable. C'est-à-dire que vous aurez toujours une frange de personnes qui veulent passer au travers du système, qui veulent essayer, un peu brigand dans l'âme. Bon, vous avez toujours ce pourcentage-là. Mais quand on arrive à des millions de personnes, c'est parce que c'est le constat que le modèle économique n'existe plus. Et la musique est passée par cette crise-là. Mmh. Et justement, le fait d'avoir des plateformes comme Spotify ou Deezer font que vous avez des gens qui s'abonnent à des tarifs raisonnables, qui du coup écoutent beaucoup de musique et qui ensuite déplacent la dépense. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une chute de consommation, par exemple, des concerts. Avant la crise, évidemment, les concerts étaient repartis à la hausse depuis plusieurs années à des tarifs où les gens étaient prêts à payer parfois 100 ou 150 euros pour aller voir l'artiste qu'ils voulaient absolument voir.
En musique, ne sont sortis que les grosses machines, les gros chanteurs, les gros trucs. Donc là, il faudra faire aussi le pari de dire qu'il
n'y
aura que les gros matchs qui intéresseront. Le reste, non. Le modèle football, pour l'instant, il est collectif.
D'ailleurs, il faut voir Mbappé et Neymar partir en tournée à l'été 2022
le problème, pour remplir les caisses.
Ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est que les gens ne voient plus de matchs. Mm-hmm. Ils ne regardent plus de matchs. Et en fait, ils sont sur un imaginaire, mais ils ne voient plus de matchs. Et comme ils n'écoutaient plus de musique, à partir du moment où on fait revenir les amoureux de la chose à consommer, à voir pour un prix raisonnable, on réenclenche le plaisir et la passion. Et donc derrière...
Attention, la nature horreur du vide. En ce moment, il y a plein de sports qui prennent la place. En bien clair, sûr. Notamment le rugby qui prend la place, le basket sur canal qui revient et tout
bien
ça.
Sûr. Donc la les Formule gens passent, revient, la Formule 1,
donc les gens passent à autre chose.
Oui, mais le foot restera immortel et universel.
Non. Les présidents de clubs se rendent compte de l'erreur qu'ils ont faite aujourd'hui. On passe à autre chose.
La Ligue 1 est en grande,
le spectacle
grand
de la Ligue 1 est en danger en France.
Parce que le modèle, il est entre deux. Soit vous avez un spectacle d'une qualité remarquable, des matchs en Angleterre où vous savez que vous allez acheter le match, et là vous payez. Parce que vous êtes passionné, vous allez assister seul ou en famille à un spectacle mémorable. Là, vous payez cher. Mais sinon, si c'est pour voir ces matchs de Ligue 1 là, il faut baisser les prix. À un moment, c'est l'offre et la demande. Si vous ne baissez pas les prix en ce moment, donc c'est pour ça qu'à mon avis, Olas a raison, il faut individualiser à la carte des systèmes où vous pouvez acheter un petit lot.
Je ne suis pas sûr que juridiquement...
Mais Olas, il ne va pas jouer... Lyon ne va pas jouer contre Lyon tous les dimanches.
Il faut trouver...
Pour qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait une concurrence. On n'achète que des matchs de Lyon, c'est Lyon qui va avoir les ressources et Lorient n'aura jamais ça. Il faut faire une Ligue 1 à 8
en France,
ou à 6. C'est le modèle suisse qu'il faut faire très vite.
Le match unique à vendre, c'est pas possible en France. Tout à l'heure, tu soulevais Karim et Jarry, peut-être, il y a peut-être un pas de côté à faire, c'est-à-dire avoir une plateforme du style Deezer ou Spotify, de proposer tous les matchs. Tous les matchs, je dis bien pour un abonnement qui reste à définir, ça les pros le définiront.
Et remettre tout dans une caisse commune.
Et proposer aussi la possibilité sur cette même plateforme un match. Juridiquement, tu peux contourner peut-être.
Le problème aujourd'hui, c'est que les clubs, ils sont tellement à l'agonie financière que les présidents essaient de trouver tous les moyens, et ça sera, sauf qui peut la vie, tout seul.
Alors justement, quelles sont les solutions? Un mariage, un nouveau mariage entre beIN et Canal, on l'a connu. La Ligue, qui pourrait créer sa propre plateforme, sa chaîne, encore une fois, juridiquement, je crois que c'est pas possible, des clubs qui vendraient leur individuellement droit.
Mais moi, c'est assez simple. De toute façon, là, pour l'instant, Mediapro est sous la protection du tribunal de commerce. Donc, il va falloir attendre.
Mais au 31 décembre, il va falloir trouver
la solution. Et après, ça voudra dire que ils déclareront soit en faillite ou pas. Et après, il faudra faire un nouvel appel d'offres. Et il faut du temps pour tout ça. Moi, je ne crois pas que, par exemple, la meilleure affiche de Mediapro puisse vendre sa meilleure affiche à Canal, parce que le modèle économique serait écroulé.
Le match de 21h le dimanche, par exemple.
Ça voudrait dire que ça serait terminé. Parce que le seul produit d'appel, c'est leur match, leur gros match. Est-ce qu'ils vont réussir à vendre des abonnements avec les matchs bidons et en bois qu'on voit le dimanche après-midi? Non, c'est impossible. Donc, c'est tout l'un, tout l'autre.
Et est-ce qu'on peut remettre comme cela en circulation et en cours de route également un contrat? Tous les autres diffuseurs, mis à part beIN, Canal, potentiellement intéressé, pour élever le doigt en disant mais nous on veut être également...
Parce que pour l'instant avec le coronavirus, cette loi-là permet de protéger les entreprises. C'est pour ça que pour l'instant Mediapro est sous la protection de l'État.
Bon, messieurs, je crois que la meilleure solution finalement c'est d'écouter le foot à la radio et sur RTL.
Voilà. Mais parfois il y a certains matchs qu'il vaut mieux écouter que regarder. Croyez-moi. Notamment le dimanche après-midi, mais bon. Mais le samedi soir aussi, bien sûr.
Et le dimanche soir également.
Bien sûr.
Et mardi soir pour la Ligue des Champions aussi. Voilà. Ça coûte des piles éventuellement, un petit peu de courant, mais ça
c'est ce que j'allais dire, c'est gratuit en plus.
Je sais brancher à l'électricité.
Mais le matin, quand vous écoutez la radio.
Alors, si je suis tout à fait honnête, le matin, je suis complètement débordé, vous savez.
Vous devriez écouter Yves Calvi de 7h du matin à 9h30.
On m'a dit que c'était une émission de qualité.
Surtout pour ne rien manquer d'Yves Calvi, vous êtes obligé, dans votre appartement ou dans votre maison, parce que vous avez une grande maison, de vous promener évidemment avec un transistor. Ah oui, un transistor, ça, on peut pas.
Après, il y a Julien Courbet toute la journée.
Oui,
on va revenir si on continue à citer vos émissions.
Christelle Rebière, Pascal Pro.
Rebranchez votre téléphone.
J'aime beaucoup Pascal.
Flavie Flamand,
dans la vie.
Les grosses têtes.
Et Georges Lang.
Il va nous faire toute la grille.
Alors Thomas Soto.
Georges Lang aussi le soir.
Et Georges Lang, formidable. Et qu'on retrouvera d'ailleurs à partir de 22h.
Sinon, si on veut parler aux jeunes un peu, il y a des applications qui existent aussi. On peut écouter la radio sur son téléphone, il n'y a pas de problème.
La toute nouvelle application RTL est formidable. Avec un son surdimensionné, je vous la conseille.
On m'a dit que vos ouailles, si je peux me permettre, allaient recevoir Adil Rami. C'est ça?
Entre 21h et 22h.
Voilà. Et on m'a promis, ce soir, Giovanni Castaldi m'a promis qu'il allait poser les vraies questions enfin à Adil Rami. Donc je vais écouter ce soir.
Et surtout là.
Ça, c'est un bon. Vous devriez faire plus
souvent. Vous croyez encore Giovanni Castaldi?
Bien sûr.
Les vraies questions, il m'a dit.
Laquelle?
Une page de pub, d'autres messages sur les réseaux sociaux et puis les tirs au but, messieurs.
Ah, on attend
tous les sujets d'actu. Oui, mais il leur tourne. 19h52.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
La dernière ligne droite d'On fait le match avec Nedjari, avec Vernez, avec Tarago et avec Sanfour. Ça va plus vite, hein, j'évite les prénoms parce qu'il est déjà 19h52. Les messages
avec Olivier.
Et la Ligue 2, et la Ligue 2, Baptiste Durieux.
Absolument. Anthony sur le streaming. Les jeunes ne payent pas pour le foot, mais ils payent pour Netflix, Amazon Prime, Spotify, Deezer et j'en passe. Donc en suivant ce modèle, ils paieront pour le football aussi. Il faut vivre avec son époque, avec des nouveaux modes de communication et de consommation, et le football ne peut pas y échapper pour Anthony. Et puis effectivement, la Ligue 2, 11e journée, c'est la mi-temps. Le Paris FC qui est mené sur sa pelouse 3-0 par Auxerre, 0-0 entre Chambly et Toulouse, 1-0 pour Valenciennes face à Rodez, Grenoble qui mène sur la pelouse de Pau, 2-0, 2-1 pour Dunkerque face à Niort, 1-0 pour Amiens contre Clermont, et puis Sochaux qui mène sur la pelouse de Châteauroux, 1-0.
Alors voilà, on ne laisse pas parler Baptiste Durieux, donner les résultats, un peu de respect pour les auditeurs et pour Baptiste Durieux. Vos micros sont ouverts et vous commentez déjà.
Pardon, Baptiste.
Et vous commentez déjà l'enflammade.
Ça veut dire qu'on l'écoute.
Ça veut dire qu'on est Paris Football Club.
Non, on voit ça, on voit les buts. Là, 3-0, c'est une catastrophe. Mais ils ont eu des papiers toute la semaine.
Ça arrive, voilà, c'était une erreur de parcours.
Non, mais ils ont eu des papiers partout. Ils se sont vus déjà en Ligue 1.
Ah, la faute aux journalistes alors.
C'est la faute des journalistes comme d'habitude.
René Girard qui connaît ça par cœur.
René Girard qui pourtant est un homme.
Il était certain. Il était certain que les papiers et les commentaires dithyrambiques sur son club allaient entraîner un pétage de plomb de certains joueurs parce qu'ils connaissent. Et c'est ce qui est en train de survenir.
Calmons-nous dans les deux sens, Gilles Verdez.
Comment ça, calmons-nous?
Pas d'enflammade avant ce match-là et pas d'enterrement de première classe après cette défaite.
Non, on est vraiment pas ce que j'ai dit.
Non, mais c'est un virage.
Soyons nuancés.
J'essayais d'analyser les pensées intimes complexe de René Girard.
Soyons, qui est un excellent entraîneur au demeurant.
Il avait tout prévu.
Mais qui est un homme, effectivement, je vous le conseille.
Et statistiquement, les hommes sont plus souvent critiqués que les femmes dans le monde du football.
Oui, mais il y en a plus. Les tirs au but. Alors attention, coup de sifflet, vous démarrez, va falloir faire vite, messieurs, 19h54. Équipe de France qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Méthode Dédé, méthode Didier Deschamps. Mais messieurs, il n'y a pas de débat, il n'y a plus débat, d'accord ou pas d'accord?
Il n'y a aucun débat.
Philippe Sanfourche.
Il n'y a aucun débat. C'est victoire sur toute la ligne. Didier Deschamps avait annoncé qu'il avait trois rassemblements depuis le mois de septembre pour essayer de diversifier un petit peu le jeu de l'équipe de France, régénérer avec certains apports dans le groupe. Ça pouvait passer peut-être par un léger fléchissement des résultats. Ça passera que c'est tout le contraire qui intervient. Il y a eu ce match contre la Finlande qui n'en est pas un. C'est un peu comme le match de Monaco hier pour le PSG. Ça préparait le match d'après. Il fallait gagner un match. Ils l'ont fait. Et avec quel match? Au Portugal, on n'a jamais été autant dans la maîtrise totale du groupe, de tout, au niveau de France.
Bonne réponse, Sébastien Tarrago.
Moi, je n'émettrai plus jamais aucune réserve
sur Deschamps.
Si l'équipe de France joue ainsi. C'est-à-dire que si, en plus du talent managérial de Didier Deschamps, salué par tous, il y a le jeu. Alors là, je fais des claquettes dans votre studio.
Même Sébastien Tarrago.
Donc il n'y a pas de débat.
Mais quand l'équipe de France, joue bien,
on s'en fout qu'elle joue bien, elle gagne.
Moi, je m'en fous pas.
21h ce soir, messieurs, Atlético Madrid-Barcelone. Antoine Griezmann à Barcelone, a-t-il fait un mauvais choix de carrière? Oui ou non?
Il a fait un mauvais choix de carrière, mais surtout, il faut qu'il demande à sa famille de se taire, quoi. Parce que tout le monde parle dans la famille, les cousins, les oncles et tout ça. Et le dernier documentaire qu'il a fait est une catastrophe parce que ça a été repris partout en Espagne. Et son oncle qui a dit les coulisses de ce club-là ne lui a absolument pas rendu service. Ça a été une catastrophe. Heureusement qu'il lui reste l'équipe de France comme bouée de sauvetage. Quoi.
Mieux entouré, il aurait été Ballon d'Or.
Ouf, carrément.
Carrément.
C'est mon...
C'est ton avis.
Mon humble avis.
Et tu le partages.
Je ne suis pas le seul à le partager.
Plan Macron, 400 millions d'euros annoncé cette semaine pour l'ensemble du sport français, vers des jauges modulables dans les stades de football, pas seulement, mais dans les stades de football au 1er janvier 2021. Soulagement ou annonce prématurée? Gilles Verdez.
Annonce prématurée, il faut rester sur ou zéro, des toutes petites jauges, on ne peut pas faire modulable, ça va être à la carte, on ne va ni rien comprendre, les stades de foot vont devenir des foyers. Il faut être clair, pour une fois, il faut être clair en matière de foot. Je préfère qu'il n'y ait pas de spectateurs et que l'épidémie s'en aille.
Ouais, moi, je pense que quand il y a un grand stade, c'est plus simple quand même de faire venir des gens. Là, moi, je ne supporte plus.
Donc, c'est à la carte.
Oui, c'est à la carte, parce qu'il y a des stades où il y a 10 000 places, il y en a d'autres qui sont à 80 000 places. Et c'est très dur de regarder ces matchs-là, et je pense aussi aux joueurs, et en discutant avec quelques joueurs, ils se disent, c'est très dur d'arriver sur les terrains, et ce stade vide à chaque fois. On n'en peut plus de ces stades vides.
Donc, tir au but transformé par Sanfourche, par Nedjari et par Verdez. Attention, Sébastien Tarrago. Les journées de l'arbitrage ont lieu actuellement.
C'est pour moi, ça.
Toi qui critiques les arbitres en permanence.
Allez-y, Sébastien.
Madame Frappard, vous avez critiqué récemment.
J'ai eu du mal à trouver la question. Je pense qu'elle sera mal formulée. Alors, tous les sports sont concernés, donc le football. J'ai le football plus que jamais. Mais comment les aider davantage, les arbitres?
Alors, moi, je ne sais pas comment les aider. Je pense qu'ils doivent s'aider eux-mêmes, déjà. Et eux-mêmes devraient militer pour qu'ils portent un micro en permanence, pour qu'il y ait une transparence totale. Cela les empêcherait, eux, d'avoir des excès de langage parfois, mais cela empêcherait aussi les joueurs, les entraîneurs d'avoir des excès de langage, et je pense qu'il y aurait une sérénité qui s'en dégagerait. Ça se passe en rugby, c'est possible.
C'est la chose qu'on aurait dû faire avant même le VAR ou la VAR.
Je suis d'accord, il faudrait une loi du board qui dise qu'on ne peut pas approcher un arbitre à moins d'un mètre. Voilà. On ne peut plus avoir ces joueurs qui encerclent un arbitre. C'est impossible.
Égalité parfaite. Celui qui prend la main aura gagné ce soir. Puisque depuis samedi dernier, c'est la nouveauté. Il faut quand même un vainqueur.
Alors. Le premier qui a gagné. Même
attention.
Même s'il dit n'importe quoi.
Attention. Hein. Et là, il ne faut pas lever la main. Il ne faut pas lever le doigt. Il faut y aller directement, Gilbert. Ou sur Zidane ou sur Olivier Giroud.
Zidane.
Sur Zidane,
Zidane
joue-t-il son avenir la semaine prochaine face à l'Inter Milan en Ligue des Champions?
Son avenir est déjà joué.
Non, vous êtes disqualifié. Disqualifié, terminé. Coup de sifflet.
Son avenir est déjà joué, mais alors je ne sais pas pourquoi.
Son avenir est déjà joué, pourquoi? Je vais vous dire, parce que Ramos est absent. Et le Real Madrid, sur les 8 derniers matchs qu'ils ont joué en Ligue des Champions, ils ont perdu 7 fois sans Ramos. Et ça va être une catastrophe pour le Real Madrid d'aller à l'Inter sans Ramos. Et s'ils perdent, ils ne se sont pas qualifiés, ça va être très difficile pour Zidane.
Heureusement que ces émissions sont enregistrées, hein, parce qu'entre l'avenir de Zidane le bel avenir du Paris Saint-Germain contre Leipzig.
Heureusement que je suis modéré.
J'ai déjà deux débats pour la semaine prochaine. Ouais. Non, on fait le match. Ouais. Messieurs, merci beaucoup en tous les cas. Ça a été un plaisir, ça a été chaud, mais ça a été bienveillant et on s'est bien amusé en même temps qu'on a essayé évidemment d'informer tous les auditeurs.
En plus, avec le masque, on ne sait pas si on rigole ou pas. Tout va bien.
Merci Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche, Gilbert Verdez, Karim Nedjari, merci à vous tous pour votre fidélité, bien évidemment. RTL Foot, 20h-22h. Bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao.